Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Ah, ça sent l'été. Bonjour à tous. Nous sommes le 21 juin. Bienvenue sur l'antenne de Graphite pour cette dernière émission de la saison. Oui, l'été arrive. Je vais prendre des vacances. Ça me fait du bien. Et pour cette dernière émission, on va quand même faire une émission classique, traditionnelle. C'est-à-dire une revue de presse de l'actualité scientifique, bien évidemment, parce que l'actualité, elle, ne prend pas de vacances. Et il y a encore pas mal d'articles que je souhaitais évoquer avec vous pour cette journée du 21 juin, qui est la journée mondiale de sclérose latérale amyotrophique, la SLA. On a choisi cette date car le 21 juin est la journée la plus longue de l'année, symbole de l'espérance d'une vie plus longue pour les 500 000 patients atteints de la maladie de Charcot à travers le monde. Oui, la maladie de Charcot, donc c'est cette sclérose latérale amyotrophique et donc c'est la journée mondiale qui permet de sensibiliser aujourd'hui sur ce sujet-là. 21 juin 2004, Spaceship One devient le premier avion à effectuer un vol privé dans l'espace. Spaceship One, tiens, on l'avait oublié ça. Ben oui, ça fait quand même 21 ans. Et en 2006, l'Union Astronomique Internationale nomme officiellement Nix et Hydra, deux nouveaux satellites découverts autour de la planète naine Pluton. On ne sait jamais comment la nommer, cette planète, qui n'est pas une planète, Pluton, on n'en sait rien, mais donc planète naine maintenant. Mais on avait découvert, il y a 19 ans, deux nouveaux satellites. Naissance le 21 juin 1781 de Siméon Poisson, mathématicien, géomètre, physicien français. Sa contribution la plus essentielle concerne l'électricité, le magnétisme. Il va contribuer à travailler sur ce sujet-là, mais il a également une influence assez importante en astronomie. C'est à l'époque, hein, 18e siècle, où on touche à tout au niveau science. Il a notamment travaillé sur l'attraction des planètes, Siméon Poisson. Il est donc né un 21 juin 1781 à Pithiviers et décès le 21 juin 1740, alors c'est toujours dans le 18e siècle, de François Chicoineau, je ne vais pas y arriver, est un médecin et botaniste français. Il remplit avec succès sa fonction d'intendant du Jardin des Plantes de Montpellier, le plus ancien du royaume, qu'il renouvelle entièrement et en peu de temps. Il est passionné de botanique, il possède dans ce domaine des connaissances vraiment étendues et il était également médecin, il était le premier médecin du roi. Il meurt jeune, il meurt à l'âge de 38 ans à Montpellier et pour lui succéder, eh bien Louis XV choisit son fils âgé de 2 ans, c'est quand même assez fascinant ça. Le gamin, on ne sait même pas ce qu'il va faire, mais il sera médecin. Ah, c'était une époque, qu'est-ce que vous voulez. C'était l'actualité de ce 21 juin. Je sais pas, moi je trouve ça fascinant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Allez, on va... Alors, il y a pas mal d'articles que j'ai pas eu le temps d'évoquer pendant ce mois de juin. Mais comme on va parler de l'été, on va parler du soleil et du bronzage, eh bien faites attention. Il y a encore une sonnette d'alarme qui est tirée par l'OMS concernant le mélanome cutané en forte augmentation, mais... généralement évitable. Le mélanome cutané est attribuable dans plus de 80% des cas à l'exposition aux rayons ultraviolets, aux UV. C'est une nouvelle estimation de chercheur du Centre international de recherche sur le cancer. Ça a été diffusé en début du mois de juin. Cette alerte sur près de 332 000 cas de mélanome cutané dans le monde en 2022, eh bien, il y en a environ donc 80% qui étaient causés par les rayons UV. Ce cancer a causé 58 700 décès en 2022, c'est quand même assez énorme. La proportion de cas liés aux UV était plus élevée chez les hommes que chez les femmes. C'est ce que note donc ce centre international dans un communiqué. Autre observation, le fardeau du mélanome cutané diffère considérablement d'une région du monde à l'autre en raison de la combinaison de différents niveaux d'exposition aux rayons UV et d'un risque de développer un mélanome cutané beaucoup plus élevé chez les populations à la peau claire. C'est ce que résume cette agence spécialisée de l'OMS. Le Centre international de recherche sur le cancer fait partie de l'OMS. Les régions qui affichent les taux les plus élevés de ce cancer attribuable aux UV étaient ainsi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord. Alors que le mélanome cutané était une maladie rare dans le passé, eh bien l'exposition accrue aux UV ces dernières décennies, avec les voyages dans des régions à fort rayonnement et bien sûr le bronzage, eh bien ça a provoqué une forte hausse des cas de cette pathologie, et donc notamment chez les populations à la peau claire. Et les taux d'incidence chez les plus jeunes générations ont diminué dans de nombreux pays où les taux étaient historiquement plus élevés. La croissance et le vieillissement de la population devraient entraîner une augmentation nette substantielle du nombre de cas de mélanome cutané diagnostiqués chaque année. Alors, il y a une projection récente qui anticipe plus de 500 000 nouveaux cas et près de 100 000 décès en 2040. C'est quand même des chiffres assez importants, parce qu'on est dans une augmentation de plus de 50%. C'est ce qu'a rappelé donc l'OMS. Or, la plupart des cas de mélanome cutané sont évitables. C'est ce que souligne Olivier Langselius, qui est l'auteur principal de cette étude, qui est donc cité dans le communiqué. Il insiste notamment sur, je cite, « le besoin urgent d'intensifier les efforts de santé publique en matière de protection solaire ». En particulier dans les régions à haut risque et parmi les populations vieillissantes. Alors, si le nombre de nouveaux cas par an a connu une augmentation régulière ces trois dernières décennies, le dépistage s'est aussi amélioré. Et il y a de nombreux traitements et nouveaux qui sont apparus, mais en tout cas, faites attention parce que le bronzage pourrait vraiment vous tuer. C'est ce que explique justement ce communiqué de ce Centre international de recherche sur le cancer lié à l'OMS. Donc faites attention cet été, bien évidemment. Voilà, j'ai bien plombé l'ambiance pour cette émission, pour cette dernière émission de l'année, mais en tout cas, Biotine, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire avoir certains sujets qui concernent la science et notamment la médecine, nous concernent directement, donc il va falloir faire attention. On a très souvent parlé dans cette émission de la dégradation climatique. Et le changement climatique a des répercussions aussi sur certaines catégories, secteurs d'activité, et notamment en France, sur le fromage. Le fromage, on sait, hein, ça a quand même une importance culturelle et sociale assez importante. En France, la consommation moyenne de fromage par habitant est estimée à 25 kilos par an. Alors, ça témoigne d'une véritable histoire d'amour entre les Français et le fromage. Il y a plus de 15 000 producteurs de lait, 1200 fermiers, des centaines d'ateliers de transformation et d'affinage qui sont impliqués dans ce secteur. Pourtant, d'après une récente étude de l'INRAE Vet AgroSup, l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche Agronomique et Environnementale, c'est l'ancien INRA. Il y a une étude qui est parue dans Journal of Dairy Sciences. Le changement climatique actuel altère la qualité du fromage. En fait, ce changement climatique entraîne une hausse conséquente des températures. On sait que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et il convient de remarquer que les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et intenses. Et de ce fait, la qualité et la quantité d'herbes disponibles dans les pâturages sont drastiquement réduites. Et pour faire face à cette perte, les agriculteurs mettent en œuvre des stratégies d'adaptation. Ainsi, il y a d'autres fourrages qui sont introduits dans l'alimentation des animaux, comme le maïs ou la luzerne. Mais pour obtenir un fromage de qualité, l'herbe pâturée, elle est essentielle. Et concrètement, plus les vaches laitières consomment d'herbes fraîches, plus le fromage sera de bonne qualité et aura les caractéristiques recherchées au niveau du goût, de l'arôme et de la texture. Donc cette équipe de recherche allait effectuer un test sur le fromage de type Cantal et les plus onctueux, les plus jaunes et les plus aromatiques ont tous été produits par les vaches nourries à l'herbe pâturée. Et les vaches nourries avec peu ou pas d'herbe ont, elles, produit des fromages plus blancs, plus fermes et avec des saveurs plus douces. D'autant plus que lorsque les vaches consomment une grande quantité d'herbe, eh bien leur lait est riche en acide gras oméga-3, qui est lui bénéfique à la santé humaine, hein, parce qu'il participe au bon fonctionnement des fonctions cognitives, de l'activité cardiovasculaire au maintien de l'acuité visuelle, je vais y arriver. Ainsi, l'apport nutritionnel des fromages issus de ces laits n'est quand même pas négligeable. Mais lui aussi, ça pourrait s'aménuiser. Alors, il faut noter que compléter l'alimentation des vaches avec du foin Face à un épisode de sécheresse, à un effet négatif moins important sur la qualité du fromage, à comparaison à d'autres cultures fourragères. Généralement, en hiver, les agriculteurs dépendent des stocks de foin conservés pour nourrir les vaches, mais les zones destinées à la production de foin sont quelquefois utilisées pour la culture des autres fourrages en raison un peu du contexte environnemental. Donc le changement climatique fait émerger un nouveau risque au niveau des AOP, les appellations d'origine protégée. Le respect des pratiques traditionnelles qui garantissent leur caractère régional et leur authenticité, ça devient de plus en plus difficile. C'est un peu une face cachée et peu connue du changement climatique qui affecte à sa manière la France et notamment le secteur agricole. Néanmoins, les acteurs du secteur travaillent pour essayer de préserver la richesse des fromages français en conciliant tradition et évolution. Mais voilà, effectivement, tout ça a des répercussions assez importantes et dramatiques. Alors, on a, dans cette émission, tout au long de cette année, parlé du réchauffement climatique et on a très souvent parlé des conséquences véritablement dramatiques qui se mettaient en place. Bon, là, que la qualité du fromage, c'est-à-dire que le Cantal soit un peu moins bon, c'est pas dramatique. C'est dommage, mais c'est pas dramatique. Mais en tout cas, voilà, c'est encore là, toujours, une illustration qui rajoute un petit peu plus d'éléments sur ce sujet qui nous concerne. Et tout au long de l'année, on a très, très souvent évoqué les conséquences de plus en plus importantes et aussi les preuves de plus en plus immuables qui sont apportées au niveau du réchauffement climatique, parce que les climato-sceptiques persistent encore, mais très souvent dans cette émission, on a quand même eu des annonces, des articles venant de laboratoires du monde entier. C'est quand même assez général sur ce sujet-là, qui nous montre qu'on est vraiment sur la tangente, j'ai un peu l'impression. Allez, on va écouter aussi un peu de musique dans cette émission Biotine, parce que c'est l'été, parce que c'est la fête de la musique aussi, paraît-il.
Yeah.
Il y a Laylo, c'était Babel Blues, ça doit être comme ça que ça doit se prononcer, sur l'antenne de Graphite. Il faudrait que tu donnes des fiches techniques pour qu'on sache des fois. J'invente un peu les noms, j'ai l'impression. Babel Blues, je suppose que c'est ça en tout cas. C'était Yaleilo sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison parce que la science nous concerne, elle concerne notre vie quotidienne, notre environnement, notre société, enfin toutes les échelles. La science est autour de nous, la science au sens large, hein, la science et la technologie bien évidemment, et la médecine dans tout ça. Et cet article que l'on trouve dans Science et Avenir, hein, je vous incite à feuilleter aussi les revues de vulgarisation scientifique. Vous avez Science et Vie, Science et Avenir, il y a pas mal de choses qui sont assez... j'allais dire abordable, hein. C'est-à-dire que ce sont des revues qui sont vraiment bien faites pour nous informer, mais nous informer d'une façon totalement adaptée, avec aussi des illustrations, des iconographies qui sont vraiment bien faites. Et puis vous avez parfois des petites brèves qui sont assez intéressantes parce que ça vous permet d'avoir une information rapide et sans avoir trop de contexte un peu compliqué de tout cela. Donc les petites brèves vous donnent un petit peu des petites informations que vous pouvez ensuite, entre amis, en famille, échanger par la suite. Hein. C'était l'ancienne rubrique qui existait dans cette émission qui s'appelait « Savoir étaler sa science ». Eh bien, Biotine, toutes les semaines, vous permet d'avoir un petit peu d'informations sur ces sujets-là. Et je trouvais intéressant cet article que l'on trouvait dans « Science et Avenir » du mois de juin, concernant le vaccin contre le zona qui a été mis sur le marché depuis à peine plus de 10 ans pour la prévention du zona. C'est le vaccin Zostavax qui pourrait bien offrir un autre effet protecteur inespéré, ça serait la réduction du risque de démence sénile. C'est ce que suggère en tout cas une nouvelle étude qui est parue dans la revue Nature, la deuxième étude en moins de 10 mois. La première comportait un biais dans le choix des personnes observées qui pouvaient faire douter de ces résultats étonnants. Mais donc, il y a une deuxième étude qui a été récemment publiée par une équipe de l'université Stanford aux États-Unis qui vient renforcer l'hypothèse d'un double effet protecteur. Donc, il y a l'efficacité connue du vaccin contre le zona, hein, c'est-à-dire une réactivation du virus de la varicelle provoquant une éruption cutanée douloureuse. Eh bien, les chercheurs ont en effet mesuré aussi une diminution de 20% du diagnostic de démence sénile, dont Alzheimer, chez les personnes âgées de 71 à 88 ans qui sont vaccinées. L'étude s'est appuyée sur le programme de vaccination lancé en 2013 au Pays de Galles, qui a permis aux chercheurs d'étudier les données sur plus de 280 000 personnes. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est quand même sur un panel, un échantillon assez important de personnes concernées, et donc les résultats que l'on a peuvent être pris en considération. Et la raison pour laquelle ce vaccin offrirait une protection, ça reste encore mystérieux. Il y a deux mécanismes qui sont avancés par Pascal Geldzeiter, professeur à l'université de Stanford, qui est l'auteur principal de cette étude. Il explique, pour ces deux raisons, ces deux mécanismes, qui fait que ça pourrait apporter une protection supplémentaire. Le premier est spécifique au virus de la varicelle. De plus en plus de travaux tendent à montrer que les virus ciblant le système nerveux et qui hibernent une grande partie de la vie pourraient être impliqués dans le développement de la démence. Donc si on réveille un petit peu ce virus, effectivement c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont logés dans des endroits où il ne faudrait pas, en clair. Et le deuxième mécanisme est que les vaccins peuvent avoir des effets sur le système immunitaire qui vont au-delà de la simple production d'anticorps spécifiques pour lequel ils ont été conçus. Alors, ça, maintenant, il faut que l'équipe lance un essai clinique classique qui permettrait de transformer cette corrélation en lien de cause à effet. Mais en tout cas, c'est quand même une information assez intéressante qu'il va falloir confirmer sur ce vaccin contre le zona qui réduirait donc les démences séniles, dont Alzheimer. Voilà, c'est quand même, je sais pas, une information. On peut dire que cette année, on a eu quand même toutes les semaines plusieurs informations qui sont intéressante, prometteuse, qui plutôt optimiste, on va dire. Et bon, bah, à chaque fois, c'est un petit peu frustrant parce que on sait très bien que la science a son temps, la recherche médicale a également un temps qui n'est pas nécessairement le temps que l'on souhaiterait. Ça prend plus de temps parce qu'on est sur des étapes un petit peu plus longues. Et très souvent, on parle des découvertes qui sont annoncées en début d'un processus de recherche. Donc, c'est le cas ici. C'est très souvent le cas dans cette émission parce que c'est aussi à ce moment-là que les laboratoires communiquent et parce que derrière, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi une recherche de fond. Hein, il ne faut jamais oublier non plus cet aspect-là qui est important pour pouvoir poursuivre les recherches. Il faut pouvoir avoir les moyens humains et matériels pour pouvoir le faire. Mais donc, on a très souvent beaucoup d'informations sur des découvertes qu'il va falloir ensuite concrétiser et éprouver par la suite. Mais en tout cas, celui-ci, bah, je trouve qu'il est quand même assez, comment dire, assez intéressant, assez troublant, bien évidemment, et en tout cas assez intéressant. Alors, on va. J'ai tellement d'articles sous les yeux que je ne sais jamais lequel je dois prendre en considération. Allez, on va prendre ces deux articles-là qui concernent. Qui va concerner un petit peu l'espace, ou en tout cas la NASA pour l'un et l'espace pour l'autre. On commence par la NASA et on va parler d'un sujet qui concerne l'environnement stérile. Il y a des normes internationales qui indiquent la qualité des salles blanches où sont assemblées notamment les sondes spatiales, les satellites, leurs composants, les instruments scientifiques. Quand on réalise un reportage en salle blanche, on demande régulièrement à la personne ISO combien. ISO combien, ça veut dire, c'est un petit peu la norme ISO. Un bloc opératoire, par exemple, est censé être qualifié ISO 5 s'il est suffisamment stérile aux yeux des inspecteurs de l'Organisation internationale des normalisations, hein, ce fameux ISO. C'est l'un des plus hauts degrés requis quand on construit des composants spatiaux en salle blanche. La plupart des salles sont conçues pour être ISO 6, mais la plupart du temps, l'environnement est autour d'ISO 8, ce qui est déjà très exigeant. C'est-à-dire que la composition de l'air est suivie, on entre en salle, on habille avec une charlotte, des masques, bonnets sur le crâne, des gants, des protections qui recouvrent les chaussures et ainsi de suite. Et toutes les normes de qualité d'environnement stérile ne font parfois pas le poids face à la résilience de la vie. Ainsi, c'est ça qui est assez intéressant, 26 nouvelles bactéries auparavant inconnues ont été découvertes dans les salles blanches où ont été assemblées la sonde Phoenix de la NASA qui s'est posée sur Mars en 2008. Ça a été publié dans la revue qui s'appelle Microbiome. L'étude a été réalisée par des chercheurs d'un laboratoire de la NASA, dans un laboratoire où sont assemblées et pilotées les sondes américaines d'exploration spatiale, avec également des chercheurs indiens et saoudiens qui ont travaillé sur cette étude. Le but de cette étude, c'est de déterminer comment ces bactéries sont capables de survivre dans des conditions de vol spatial assez difficiles afin de permettre un mieux suivi des risques de pollution d'une autre planète par une sonde terrienne. Parce qu'effectivement, si on va aller polluer ce qui se passe ailleurs par ce qu'il y a chez nous, en termes de bactéries notamment, c'est pas nécessairement... c'est pas nécessairement ce qu'il faudrait qu'on fasse, quoi. Donc, faut qu'on soit un petit peu plus vigilant. Les microbes ont été découverts sur le site de préparation des charges utiles au Centre spatial Kennedy, là où les sondes sont testées une dernière fois et préparées au décollage depuis Cap Canaveral. Et c'est ce qui pourrait faire la différence entre le potentiel scientifique des prochaines missions américaines et chinoises de recherche de traces de vie extraterrestre. Il y a des échantillons qui ont été collectés très consciencieusement avec un consortium de scientifiques comme guide. Il y a des sites qui n'ont pas été pollués, mais du coup, il faut qu'on fasse attention parce que si on va polluer, si on fait des recherches sur Mars et qu'on pollue la zone de recherche avec des bactéries terrestres, ça commence à être un petit peu compliqué parce que ça peut aussi quelque part dénaturer les résultats. La mission chinoise Taiyuan 3 sera, elle, tout en un et aura fatalement moins de temps et moins d'espace pour collecter des échantillons. La sonde pourrait alors polluer ces échantillons martiens avec donc les bactéries qu'elle aurait ramenées depuis la Terre. Donc ça serait un petit peu dommage. Et voilà, on retrouve des intrus dans les salles les plus propres du monde. Et on a quand même encore des intrus, on a encore des bactéries. Ça pose problème et c'est quelque chose d'assez... Enfin, comment dire, c'est une... une prise de conscience assez récente qui pose problème parce que quelque part on se dit mais comment on va pouvoir faire pour avoir un environnement mais véritablement stérile au sens propre du terme. Affaire à suivre bien sûr, mais voilà, au niveau de l'espace ça devient compliqué. Et quand on est parti, quand on arrive par exemple sur Mars, on a par exemple le rover Perseverance, hein, on a déjà parlé, qui prend des photos et il s'est lui pris en photo dans le paysage martien le 10 mai dernier, hein, il y a un mois à peu près. Et il a fait un selfie, un autoportrait qui était destiné à documenter la fin du séjour du rover sur un site spécial sur le bord du cratère G0, hein, c'est là où on fait pas mal de recherches. Et le rover, il prend photo, alors il trône fièrement devant un petit trou entouré d'une poussière. Et en arrière-plan, il y a le ciel martien qui apparaît gris. Mais la visibilité, elle est plutôt bonne, ce qui permet d'observer un petit peu l'environnement de ce rover. Et quand on analyse les images, quand on analyse cette photo, les scientifiques, ils se sont rendus compte de la présence d'un invité surprise sur ce selfie. Vous pouvez regarder la photo et vous verrez, c'est assez, assez troublant. C'est un espèce, c'est ce qu'on appelle un dust devil. Devil, je ne sais même pas quand c'est anglais, moi je peine. En tout cas, c'est une espèce de tourbillon de poussière inoffensif situé à environ 5 km du rover. Donc on voit ça sur la photo, à 5 km plus loin, on voit cette espèce de petit tourbillon qui apparaît sous la forme d'une petite tache blanche floue juste derrière le bord de la colline sur laquelle se trouve Perseverance, dans une zone plane et lisse. Et ce n'est pas la première fois que le rover capture par inadvertance des images de ce phénomène météorologique. Parce que il y a 3 ans, il avait même enregistré le son de ce tourbillon grâce à son micro. Alors, c'est une belle surprise, hein. Le selfie a également été l'occasion pour les équipes qui suivent la progression du rover d'observer son état général et notamment la quantité de poussière qui le recouvre. Alors, fort heureusement, le rover ne dépend pas de panneaux solaires pour recharger ses batteries. Heureusement, parce que comme il y a plein de poussière sur les panneaux solaires, ces derniers ne servent plus à rien, c'est pas le cas. Comme la plupart des précédents équipements scientifiques envoyés sur Mars, c'est pas les panneaux solaires qui permettent de recharger les batteries. Perseverance tire son énergie d'un générateur thermoélectrique, c'est-à-dire une espèce de batterie nucléaire qu'il a, et donc du coup qui est protégée de la poussière, une technologie qui devrait maintenir le rover en vie encore pendant plusieurs années, tant mieux parce qu'on a besoin encore d'informations, malgré donc les tempêtes de poussière et les passages de cette espèce de petit tourbillon que l'on a sur la surface de Mars. Donc voilà, il y a des petits tourbillons de poussière sur Mars. Alors qu'on aurait cru que c'était paisible là-bas, parce qu'on s'est dit, tiens, si on part en vacances sur Mars, que dans quelques années, ça sera peut-être le cas, on se dit, oh, tiens, on va être tranquille là-bas. Eh bien non, vous avez cette espèce de dust devil, oui, c'est devil, dust devil, donc cette espèce de tourbillon de poussière inoffensif. Et c'est grâce à ce selfie de Perseverance qu'on a pu identifier ça. C'est bon parfois de prendre des selfies. Vous avez peut-être prendre des selfies pendant cet été, je vous le souhaite. Et puis vous avez peut-être aussi écouté un peu de musique, je vous le souhaite également.
Summer breeze, the days were long, made of haze so colorful.
Jean-Noël Moreau, Guillotine, sur Graphite.
Burden of Life, c'était Beth Gibson sur l'antenne de Graphite. Allez, il nous reste encore moins d'une demi-heure, ça passe tellement vite pour cette dernière émission de l'année sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que vous nous écoutez bien sûr sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Des petites brèves de Science et Avenir vraiment intéressantes parce qu'on apprend plein de choses. Déjà, on parlait de Mars, on faut parler aussi de la Lune. Il y a l'ingénieur en chef de la mission chinoise Change 8, qui est prévue en 2028, cette mission. Eh bien, l'ingénieur en chef a annoncé réfléchir à installer une centrale nucléaire sur la Lune. Ben, comme ça, on aura de l'énergie sur place. Alors, comment on va construire ça, c'est toute la question. Mais voilà, c'était annoncé il n'y a pas longtemps et ça pose question, bien évidemment. Il y a trois petits articles qui sont vraiment fascinants et notamment cet hologramme qui a été présenté fin avril à la conférence sur les interactions hommes-machines. C'est à Yokohama au Japon. Il y a un congrès qui a été qui rassemblait un petit peu toutes les équipes de recherche et notamment il y a une équipe de l'université de Navarre en Espagne, on parle pas souvent de l'Espagne non plus dans cette émission, donc là c'était l'occasion, qui a présenté un système d'écran qui s'appelle Flexivol, qui est constitué d'une série de bandes flexibles parallèles de 2 cm de large en élastane, en silicone et en polyester. Et cet assemblage, il est monté sur ressort pour être soumis à un mouvement oscillatoire de forme sinusoïdale et ultra rapide. Bon, ça veut dire quoi ? C'est qu'on est capable d'avoir des hologrammes que l'on peut toucher du doigt. C'est ça qui est quand même assez fascinant. C'est-à-dire que on a la persistance rétinienne chez l'homme qui va faire en sorte qu'on a l'illusion d'avoir des objets en volume, comme des hologrammes, mais là, on peut les manipuler parce que les bandes élastiques que je viens d'évoquer laissent la main passer pour attraper, pour déplacer, pour faire pivoter ou pour faire glisser les éléments. On voit toujours ça dans certains films de science-fiction. Et bien là, ça y est, on a des hologrammes qu'on va pouvoir toucher du doigt et qu'on va pouvoir déplacer. Il y a deux caméras stéréoscopiques combinées à un logiciel de suivi du mouvement qui servent à recalculer les projections en temps réel en fonction des gestes de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fonction du mouvement qu'il va faire avec l'objet, eh bien, il y a un calcul qui se fait de façon instantanée pour pouvoir repositionner justement l'objet selon le mouvement de l'utilisateur. Et donc, on a des hologrammes que l'on va pouvoir toucher du doigt. C'est quand même assez fascinant hein, d'avoir ce dispositif de projection en trois dimensions qui permet justement d'avoir une interaction directe avec les mains. Donc vous avez une photo dans Science et Avenir, mais je pense que vous pouvez trouver des illustrations concrètes de cette équipe de l'université de Navarre pour ce qui s'appelle le Flexivol. Je pense que si vous tapez Flexivol, eh bien vous allez pouvoir trouver un petit peu les illustrations concrètes de cet hologramme en 3D. Et en ce qui concerne la cuisine, on ne parle pas souvent de la cuisine dans cette émission, mais là, il y a deux petites brèves qui nous parlent de... Alors, d'un côté, la Suisse, qui ils ont produit avec... donc, c'est des chercheurs de l'EPFL, hein, c'est l'École Polytechnique de Lausanne, en Suisse, avec l'école hôtelière de Lausanne, ils ont construit un gâteau qui a à l'intérieur une électronique qui est totalement comestible. C'est-à-dire que au-dessus du gâteau, il y a des oursons en gélatine qui dansent grâce à un système pneumatique interne. Et il y a des bougies également à LED qui sont, elles, alimentées par une pile rechargeable à partir de charbon actif et de chocolat noir. C'est-à-dire que c'est entièrement comestible. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi offrir des solutions à la question des déchets électroniques. Donc là, c'est un robot qui se mange, en fait, quelque part. Donc c'est pareil, vous tapez robot qui se mange. Non, ça s'appelle RoboCake, R-O-B-O-C-A-K-E, RoboCake, et vous verrez à quoi ça ressemble. Oui, ça donne envie de manger, et puis vous avez une électronique à l'intérieur qui se mange également, c'est assez fascinant. Et puis vraiment, si vous êtes des grands, grands gourmands, hein, je peux que vous conseiller de manger ce plus gros morceau de viande de synthèse qui a été présenté par une équipe japonaise de l'université de Tokyo. Alors ce morceau, il est gros, ok, mais il pèse qu'une dizaine de grammes. En fait, il a été obtenu à partir de cellules de poulet qui ont été cultivées en laboratoire. Et pour atteindre ce poids record, parce que c'est un poids record, en fait, qu'on a, c'est vraiment le plus gros morceau de viande de synthèse qui a été conçu. Il fait ok que 10 grammes, mais en tout cas, c'est énorme. Et pour pouvoir atteindre ce poids record, les scientifiques ont eu recours à un bioréacteur doté de plus d'un millier de fibres creuses microscopiques. L'idée, c'était d'imiter les vaisseaux sanguins et ça permettait d'apporter les nutriments nécessaires aux cellules en profondeur dans ce tissu qui était en pleine croissance. Donc on a fait voilà, un morceau de nuggets à peu près de synthèse, un nugget de poulet artificiel. Bah, vous pouvez regarder également sur internet si vous voulez voir à quoi ça ressemble. C'est pas nécessairement ragoûtant, je trouve, mais bon. Mais voilà, ça va être la viande de synthèse maintenant, ça va être ça. On va pouvoir créer une viande de synthèse sans avoir de poulet. C'est... Bon appétit si vous êtes à table. Qu'est-ce que je vous dise ? Allez, comme on parle de poulet, on parle d'oiseaux. Et la question, c'est de savoir si les oiseaux migrateurs reviennent tous exactement au même endroit chaque année. Ah, ça, c'est une question. Alors, ce qui est vrai, c'est que chaque année, il y a des millions d'oiseaux qui quittent leur territoire pour parcourir parfois des milliers de kilomètres à la recherche de conditions de vie plus favorables. Et si certains oiseaux montrent effectivement une fidélité remarquable à leur lieu de naissance ou de nidification, d'autres font preuve d'un peu plus de flexibilité. On ne peut pas dire que tous les oiseaux migrateurs reviennent exactement au même endroit chaque année. Alors, on va commencer par ceux qui font preuve d'une fidélité étonnante. Chez de nombreuses espèces, il y a les scientifiques qui ont observé un comportement qu'on appelle la philopatrie. C'est un mot qui signifie que les oiseaux reviennent chaque année vers le même site pour se reproduire. Par exemple, il y a certaines hirondelles rustriques qui retrouvent le même nid fixé sous le même toit qu'elles avaient utilisé l'année précédente. Il y a les cigognes blanches, quant à elles, qui sont revenues pendant plus de 10 ans sur le même clocher en Europe pour élever leurs petits. Et ce phénomène est encore plus impressionnant quand on se rend compte des distances qui sont parcourues, parce qu'il y a certaines sternes arctiques, par exemple, qui migrent de l'Arctique jusqu'à l'Antarctique, à un aller-retour sacrément long, parce qu'il y a plus de 40 000 km quand même. Et ils reviennent ensuite dans la même zone de reproduction chaque été. Alors, sens de l'orientation est quand même assez précis, bravo. Hein. Il y a des balises GPS qui sont posées sur des oiseaux comme les oies cendrées ou les balbuzards pêcheurs qui ont permis de suivre leur trajet migratoire au mètre près. Et ces suivis montrent que certains individus retrouvent leur site de nidification avec une précision incroyable, même après avoir traversé plusieurs continents. Félicitations, vous n'avez même pas besoin de Google Maps. C'est très bien. Alors attention, cette fidélité, elle n'est pas absolue. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer le lieu où les oiseaux reviennent. Par exemple, si le site a été détruit, pollué, ou alors s'il y a moins de nourriture disponible, bien les oiseaux ils peuvent choisir un autre endroit, parfois à des centaines de kilomètres. Il y a le climat, il y a les tempêtes, il y a les maladies qui peuvent aussi les contraindre à modifier leur route ou leur destination. En plus, les jeunes oiseaux qui migrent pour la première fois n'ont pas encore de site fixe. Ils se déplacent souvent au hasard ou alors ils vont suivre un petit peu d'autres individus un peu expérimentés et ils vont choisir leur propre territoire plus tard. Et ce n'est qu'après quelques années qu'ils deviennent fidèles à un lieu précis. Il y a certaines espèces qui sont également plus flexibles que d'autres. Il y a les passereaux par exemple qui peuvent changer de site d'hivernage si les conditions climatiques évoluent. Les canards, les limicoles peuvent aussi suivre les variations du niveau de l'eau et se regrouper là où il y aurait le plus de nourriture. Alors, l'environnement joue bien sûr un rôle capital, mais il y a l'urbanisation, il y a l'agriculture intensive, il y a la disparition des zones humides qui obligent certains oiseaux à revoir leurs habitudes migratoires. Parfois, ils doivent chercher un nouveau site pour nicher ou pour passer l'hiver. Puis, il ne faut pas non plus oublier les effets du changement climatique avec des hivers plus doux dans certaines régions. Il y a certaines espèces qui raccourcissent leur migration. Il y en a qui cessent même de migrer. Il y en a d'autres qui partent plus tôt, qui partent plus tard dans la saison. Les grues cendrées, par exemple, elles passent aujourd'hui l'hiver dans le nord de la France alors qu'il y a quelques décennies, elles allaient jusqu'en Espagne. Il arrive aussi que certains oiseaux se trompent de chemin. Il y a des scientifiques qui ont observé des cas de déviation migratoire. Il y a des oiseaux qui se retrouvent à des milliers de kilomètres de leur destination normale, parfois sur un autre continent. Et ce phénomène, bien que rare, rappelle bien sûr que la migration reste un voyage périlleux, influencé par de nombreux éléments. Donc, Il est faux de dire que tous les oiseaux migrateurs reviennent exactement au même endroit chaque année. Si il y a de nombreuses espèces qui font preuve d'une fidélité remarquable à leur lieu de reproduction ou d'hivernage, eh bien, il existe donc des exceptions, des adaptations, des changements de plus en plus fréquents. Tout ça n'est pas figé, bien sûr. Les oiseaux migrateurs s'ajustent aux variations de l'environnement pour survivre. Leur instinct les guide, mais ils savent aussi faire preuve de souplesse. Et c'est cette combinaison d'habitude et d'adaptation qui rend leur comportement si fascinant et qui mérite bien sûr toute notre attention. C'est un article de Futura que je trouvais assez intéressant parce qu'effectivement, on ne parle pas souvent des oiseaux et encore moins des oiseaux migrateurs dans cette émission. Mais voilà, certains reviennent spécifiquement au même endroit, d'autres non. Mais ça parcourt quand même pas mal de kilomètres dans tout ça. Félicitations, bravo. Je suis fatigué rien que pour eux, en fait. Je sais pas. Allez, tiens, on va écouter Alain Bashung dans cette émission, dans cette dernière émission de la saison.
Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton. Aujourd'hui, je ne rencontre qu'aux étoiles dans le ciel et j'implore le pardon. Il dit, je n'atteindrai pas le paradis. Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé.
Les Salines, c'était Alain Bashung sur l'antenne de Graphite.
Biotime, Jean-Noël Moreau.
Et on va parler des animaux pour terminer cette émission. Alors, des petites informations. Par exemple, ce camouflage totalement inédit que viennent de découvrir des chercheurs à l'université d'Hawaï aux États-Unis. Pour masquer sa présence à l'araignée qui est propriétaire de la toire et sur laquelle elle vit et elle chasse, eh bien, cette chenille du genre Hipposcomoca se déguise en arborant sur son coco de soie des bouts de cadavres. Il y a des ailes, il y a des pattes de mouche, il y a des abdomens de coléoptères, il y a des têtes de charançons, il y a toutes sortes de charognes que l'araignée aurait abandonnées sur sa toile. Et donc, du coup, cette chenille, elle utilise les restes de proies d'araignée pour camoufler son cocon, comme ça elle est tranquille. C'est assez extraordinaire et ça a été, c'était une découverte assez récente et totalement inédite. Le zoo, lui, de Philadelphie aux États-Unis, a eu le plaisir d'annoncer que Momi, sa tortue géante des Galapagos, et Abrazo, son compagnon, ont enfin produit une descendante vivante de 4 petites tortues. Alors ok, l'information montre bien des tortues qui naissent, sauf que, Momi, elle a quand même 97 ans. Momi, c'est l'animal le plus âgé à se reproduire. Et son compagnon, Abrazo, il a aussi plus de 90 ans. Eh bien, ils ont la forme, tant mieux. En plaçant la moitié des œufs à une température plus basse, eh bien, des mâles ont même pu être obtenus. Une bonne nouvelle pour cette espèce en danger critique d'extinction, comme 3 autres sur les 7 que compte encore l'archipel des Galapagos. Mais voilà, 97 ans et elle a donné naissance à 4 petites tortues. Bah, bravo, félicitations, Momi, c'est bien, il faut bien payer nos retraites. Félicitations à toi. Et puis, il y a aussi cette petite vidéo qui a révélé quelque chose d'assez étonnant et on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Nous sommes en 2022 sur une île isolée de Jicalón, c'est au Panama. Il y a une doctorante de l'Institut Max Planck qui s'appelle Zoé Goldsborough, qui est une doctorante du comportement animal. Elle passe en revue les milliers de vidéos qui sont filmées par des caméras pièges qui sont disséminées un petit peu partout dans la forêt. Et ces enregistrements étaient censés documenter un comportement rare. Ce sont les capucins à face blanche qui utilisent des outils en pierre. Ce sont des genres de petits singes. Mais ce jour-là, ce n'est pas un outil que Zoé repère à l'écran, mais c'est une scène incroyable. Un jeune capucin transporte un bébé singe d'une autre espèce. Alors elle est intriguée, elle court en parler à son directeur de recherche, Brendan Barrett, et très vite l'équipe se plonge dans des mois d'images et en fouillant dans les archives vidéo, eh bien ils se sont rendus compte qu'il y a un même individu, un jeune mâle que les chercheurs vont surnommer Joker. Il est filmé à plusieurs reprises avec différents bébés singes hurleurs qu'il garde avec lui plusieurs jours d'affilée. C'est un comportement étrange parce qu'il kidnappe donc des bébés et c'est un comportement étrange qui se répand chez les singes de l'île. Dans les mois qui suivent, il y a 4 autres jeunes capucins à face blanche qui se mettent à imiter donc ce fameux Joker. Et en 15 mois, les caméras enregistrent le kidnapping de 11 nourrissons hurleurs. Alors, les bébés ne sont pas blessés, mais ils sont privés de lait, donc ils s'affaiblissent rapidement. Et les chercheurs estiment qu'aucun n'a survécu, mais ils n'ont pas pu confirmer la mort de quatre d'entre eux seulement. Alors les chercheurs écartent rapidement l'hypothèse de l'adoption, parce que l'adoption interspécifique a déjà été documentée chez certains animaux, mais concerne surtout des femelles. Ici, ce sont des mâles, des jeunes mâles qui sont impliqués. Ils ne nourrissent pas les petits, ils ne jouent pas avec eux, ils ne les maltraitent pas non plus. Ils se contentent de les garder auprès d'eux sans aucune raison apparente. Et pour les chercheurs, il ne fait aucun doute, les bébés hurleurs ne sont pas recueillis, mais bel et bien enlevés. Et donc dans leur étude, qui est parue au courant du mois de mai dans la revue Current Biology, eh bien les chercheurs rapportent avoir entendu des adultes hurleurs répondre aux cris de leurs petits. Et ils ont vu également ces petits tenter de fuir leurs ravisseurs avant d'être attrapés. Donc c'est un comportement inédit qui s'apparente à une tradition sociale, c'est-à-dire que ça a été initié par un seul individu, puis après ça a été imité par d'autres, sans bénéfice clair, à quoi ça sert. Sauf qu'ici, alors la conséquence elle est un peu tragique, parce que quand même c'est la mort de ces bébés singes. Alors comment une telle tradition a-t-elle pu naître ? Peut-être à cause du cadre unique qu'offre Jicalón, cette île, qui est un sanctuaire luxuriant, sans prédateurs, il y a peu de concurrence, il y a des ressources qui sont abondantes, donc ils sont quand même plutôt protégés, ils sont quand même plutôt tranquilles. Et pour un animal aussi intelligent que le capucin, On va dire que c'est un peu un luxe ultime, hein, rien à craindre. Pour un singe très intelligent vivant dans un environnement sûr, voire peu stimulant d'ailleurs, eh bien, l'ennui et le temps libre pourraient être des facteurs suffisants, c'est ce qu'explique la chercheuse Meg Crowfoot. Alors, les scientifiques ont observé ces comportements entre janvier 2022 et juillet 2023. Ils ne savent pas si la tradition continue encore aujourd'hui, mais si elle se propage à d'autres groupes, elle pourrait bien menacer la fragile population de singes hurleurs de Jicaron qui est déjà en danger. Mais voilà, comportement jamais vu chez des animaux, des singes qui kidnappent des bébés. On ne sait pas pourquoi, à quoi ça leur sert. Et voilà, c'est assez étonnant. Les animaux sont fascinants. Hein. On ne parle pas souvent des animaux dans cette émission. Il faudrait que je fasse une... Allez, l'année prochaine, on se fait une émission spéciale animaux, parce qu'il y a des trucs, enfin, des choses totalement fascinantes. On écoute un dernier titre pour cette dernière émission de l'année, et puis bah, on se dira au revoir, et on se dira bonnes vacances. À tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Them like it. Righteousness, them a go fight it. Alice Selassie on a sidekick. Impress me in a nano side chick. Not interested in them campaign. Not impressed, not care the last name. Empty words, not take what gasping. So when the thing them rise a block,
I speak my mind. I fear no evil. Land well complicated. They've been sowing seeds of hatred. Now the crops that we have tasted. When the thing get out of order, so them tighten up them border. Tell me which one would you rather, to face the sun or face the father?
I speak my mind.
I fear no evil.
C'était Samori sur l'antenne de Graphite. C'est pas mal, hein, ça. C'est un côté un peu reggae comme ça. C'est bien, ça nous prépare pour les vacances, hein, effectivement. On a tellement besoin de vacances. Je dis ça, je dis rien.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Allez, on va terminer cette saison avec ce dernier article concernant l'eau citronnée. L'eau citronnée s'est imposée comme un rituel matinal pour de nombreuses personnes en quête de santé. Elle est présentée tantôt comme un diurétique puissant, tantôt comme un détoxifiant naturel ou comme un allié minceur. Ça suscite autant d'enthousiasme que de questions. Et les spécialistes, notamment les urologues, apportent aujourd'hui un éclairage scientifique sur ce breuvage pour distinguer ses réels bienfaits des simples croyances populaires. Le docteur Wilson, urologue reconnue et fondatrice d'Urologie Unbound, elle tempère un peu l'enthousiasme excessif autour de l'eau citronnée. Elle dit « L'eau citronnée ne prévient ni ne traite les infections urinaires ou l'incontinence. Les avantages perçus découlent principalement de l'augmentation de la consommation d'eau en général. » C'est une position qui rejoint celle d'autres spécialistes comme le professeur Jean-Michel Le Serre qui souligne que le principal bénéfice provient de l'hydratation plutôt que du citron lui-même. L'hydratation adéquate reste donc le facteur clé pour maintenir un système urinaire en bonne santé, prévenir les calculs rénaux et favoriser l'élimination des toxines. Néanmoins, le citron apporte une valeur ajoutée non négligeable. Il est riche en vitamine C et en antioxydants. Il peut soutenir le système immunitaire. Il peut contribuer modestement au processus naturel de détoxification de l'organisme. Donc son effet légèrement alcalinisant une fois métabolisé, ça pourrait également jouer un rôle dans l'équilibre du pH urinaire. Donc la promesse d'une solution miracle contre la rétention d'eau attire particulièrement les personnes souffrant de jambes lourdes et de gonflement. Les flavonoïdes présents dans le citron exercent également une légère action diurétique, mais leur impact reste modeste selon les études scientifiques actuelles. Pour les nutritionnistes, eh bien, l'effet diurétique observé provient davantage de l'augmentation de l'eau que des propriétés spécifiques du citron, parce que l'eau citronnée elle peut s'inscrire dans une stratégie contre la rétention d'eau, mais principalement par son aspect hydratant. Alors, contrairement aux idées reçues, la consommation d'eau citronnée ne remplace pas les traitements médicaux pour les troubles urinaires sérieux. Bien sûr, les personnes souffrant d'infections urinaires récurrentes ou de problèmes rénaux devraient consulter un spécialiste plutôt que d'utiliser l'automédication à base de citron. Et pour tirer les meilleurs bénéfices de l'eau citronnée sans endommager votre santé, voici quelques recommandations pratiques. Privilégiez une préparation avec un demi-citron pressé dans de l'eau tiède. Consommez-la idéalement le matin à jeun, 15 à 20 minutes avant le petit déjeuner. Utilisez une paille pour protéger l'émail dentaire de l'acidité. Optez aussi pour des citrons biologiques pour limiter l'exposition aux pesticides. Les endocrinologues soulignent que l'eau citronnée peut contribuer à réduire l'apport calorique si elle remplace des boissons sucrées, mais elle n'a pas d'effet magique sur la perte de poids. Son intégration doit s'accompagner d'une alimentation équilibrée, bien sûr, et d'une activité physique régulière. Alors, si le goût acidulé du citron vous lasse, il y a d'autres options qui existent pour une hydratation bienfaisante. L'eau infusée aux fruits rouges, aux concombres ou à la menthe offre des saveurs variées tout en maintenant une bonne hydratation. Et pour les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien, ces alternatives peuvent s'avérer plus adaptées que l'eau citronnée. La modération, elle reste quand même de mise, même avec une boisson particulièrement anodine. Une consommation excessive d'eau citronnée peut sensibiliser l'émail dentaire, peut aggraver les symptômes de reflux acide ou irriter la muqueuse gastrique chez les personnes sensibles. L'eau citronnée s'inscrit donc comme un élément potentiellement bénéfique d'une routine santé plus globale, mais certainement pas comme une panacée. Son principal mérite reste sans doute d'encourager une meilleure hydratation au quotidien, qui est bien sûr le fondement d'une santé urinaire optimale, selon tous les urologues. Donc voilà, le citron le matin, c'est bien, mais c'est... Enfin, faut pas... Voilà, faut boire, en fait, mais boire de l'eau pour un système urinaire en bonne santé optimale. Voilà, c'était le dernier conseil que je pouvais vous donner avant de nous quitter. C'est la fin de cette émission. J'étais très heureux de vous animer cette émission tout au long de cette année. Une année personnelle un peu compliquée, j'étais absent pas mal de temps. J'espère vous retrouver à la rentrée de septembre. Vous suivez l'actualité, bien sûr, de la rentrée sur l'antenne de Graphite en consultant le site internet graphite.net. D'ici septembre, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer, télécharger tous les podcasts de toutes les émissions et notamment l'émission Biotine pour vous tenir informé, bien sûr, de tout ce qu'il se fait dans les laboratoires du monde entier. La science, c'est quand même fascinant et on ne se lasse jamais, en tout cas moi je ne me lasse jamais de cette émission, on apprend toujours plein de choses à chaque fois, à chaque émission. Merci à la direction de Graphite de me permettre voilà, de vous proposer cette émission et d'avoir toute la possibilité de pouvoir utiliser le studio de Graphite d'une façon autonome et c'est totalement agréable. Merci donc à Brian et Léo et je vous retrouve à la rentrée de septembre pour continuer ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon été et on se retrouve bientôt. Merci à tous, au revoir.